Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une heure ou presque, pour causer de tout de rien avec mes habituels camarades de chambre, Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Et David Honora, salut David.
Salut Thomas.
La 4DX, les Oscars techniques zappés presque de la transmission officielle et les perspectives concernant le prochain festival de Cannes. Non, on a enlevé ce sujet du programme. Le mec écrit ses intros deux heures plus tôt, donc forcément non, on va parler du rachat de la 21st Century Fox par Disney. Voilà, c'est le No Ciné Club 14e du nom et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Bah oui, je prends de l'avance, puis après l'équipe change mon programme en cours de route, du coup je suis perturbé. Avant toute chose, on le rappelle donc, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, dans le live, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur en fin d'émission. Premier sujet, la glorieuse assemblée réunie ici autour de cette table a eu la chance de tester une nouvelle fois, pour certains, la technologie qu'on nous présente comme un des axes de développement du cinéma du futur, la 4DX, le cinéma augmenté. C'était à l'occasion du festival 4DX organisé par les cinémas Pathé-Gaumont il y a quelques semaines, où étaient reprojetés en version retro. Travailler donc quelques succès récents, Jurassic World, Ready Player One, Jumanji, Bienvenue dans la jungle et Gravity d'Alfonso Cuarón. Est-ce que ça vous a plu, les amis ?
Oui, moi ça m'a bien plu parce que en fait j'ai eu l'occasion de revoir Gravity en salle, donc déjà ça c'était déjà, un premier bon point, de le revoir en relief dans une grande salle et puis pour le coup avec les fauteuils qui bougent. Alors ce qui est intéressant, j'en avais déjà un tout petit peu parlé au moment où on avait fait l'émission sur Aquaman, et puis on s'était dit à l'époque avec Julien que ça serait intéressant d'en parler un peu plus.
De requin encore.
C'est le lobby roux.
On est des gros fans du Futuroscope depuis l'enfance. Donc non, mais en fait, on s'était dit qu'il y avait des choses à dire sur ce que ça implique en fait la 4DX, et notamment des questions de point de vue.
Ouais.
Et en fait, sur cet aspect-là, je trouve que Gravity, c'est un peu le film prototype parfait pour la 4DX, parce que il y a peu de problèmes de point de vue. Il y a pendant l'essentiel du film un seul personnage, Clooney est libéré, on va dire, dans l'espace. On se concentre sur le personnage de Sandra Bullock et on est complètement focus sur son point de vue à elle, y compris avec même des plans en vue à la première personne. Et on est complètement embarqué par le film dans l'expérience qu'elle est en train de vivre dans l'espace. Et du coup, de manière assez efficace, la 4DX accompagne ça. Donc on va avoir, en plus comme elle est en apesanteur, moi il y avait un problème que je me posais sur la 4DX avec Aquaman, c'est qu'est-ce qui est censé accompagner le fauteuil et les effets de la salle. Et la réponse sur Aquaman, c'est ça accompagne absolument tout. Ça accompagne les mouvements de caméra, ça accompagne ce que subissent les personnages, que ce soit le personnage principal ou les personnages qu'il affronte. S'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Enfin, tout ce qui est présent à l'écran est retranscrit par les effets. Or, Gravity, un film qui est fait d'une telle manière que si on retranscrit ces effets, finalement, ça ne fait à mon sens que renforcer l'immersion du film. Et je trouve ça intéressant. Et c'est un vrai truc parce que moi, la première expérience que j'avais faite en 4DX, c'était sur Mission Impossible, le dernier Mission Impossible. Et je m'étais pris un fou rire au début du film parce qu'à un moment, t'as le personnage, je crois que c'est Tom Cruise qui ouvre une porte. Et au moment où il ouvre la porte, je me prenais une sorte de truc dans le cul. Et je me dis, mais quelle est la cohérence
Tom Cruise.
Donc du coup, tu te dis, ça n'a absolument aucun sens, ça va être n'importe quoi. Et donc là, pour le coup, sur Gravity, pour moi, c'est la démonstration que sur un film sur lequel c'est pertinent et avec des effets qui sont dosés d'une certaine manière, c'est intéressant. Il y a notamment des trucs, l'entrée dans l'atmosphère, tu sens que ça chauffe un peu derrière toi. Il y a des mouvements... comme on est en apesanteur, les mouvements de caméra accompagnés par les mouvements du fauteuil finalement sont un peu cohérents avec aussi l'expérience du personnage de Sandra Bullock. Et puis par ailleurs, le film est magnifique. Donc de toute façon, tu es saisi par l'émotion, même assis sur une chaise au fond d'une cave. Quoi. Donc voilà, ça fonctionne très bien.
C'est une manière comme une autre de le regarder.
mais je trouve que par-dessus tout, ça ouvre un champ des possibles assez intéressant. Et notamment, je me pose la question, c'est-à-dire que malheureusement, tous les films ne sont pas comme Gravity. Après, il y a des films... Alors, je crois que Stéphane, toi, tu l'as vu avec Ready Player One. Je suis intéressé par l'expérience que tu as eue, parce que pour le coup, là, il y a plusieurs points de vue, il y a plein de questions de mise en scène qui se posent. Et je pense qu'il y a des choses à imaginer sur comment on retranscrit les effets. Et d'une certaine manière, je comprends le côté jusque-boutiste de se dire il faut retranscrire un maximum d'effets pour qu'en gros les gens en aient pour leur argent. Mais à l'inverse, ça pose une question de point de vue et le risque, c'est que les effets, au bout d'un moment, te sortent du film.
Le problème sur Ready Player One, c'est que moi, j'aurais préféré le voir Gravity, pour le coup. J'étais pas présent pour les bonnes séances. Voilà. Et le problème de Ready Player One, c'est que... alors, moi, mon expérience avec la 4DX, j'avais pas vu de film avant celui-là. Le seul truc que j'ai vu, c'était chez Universal Studios. Il y avait Shrek 4DX, c'est un petit truc de 15 minutes ça fonctionne exactement de la même manière.
Qui est devenu Kung Fu Panda d'ailleurs maintenant.
C'est Kung Fu Panda maintenant, ouais. Moi j'étais en 2011 je crois, tu vois, donc ça remonte. Mais c'est exactement les mêmes procédés, si ce n'est que c'est plus poussé aujourd'hui en fait que dans mon souvenir de Shrek en tout cas. Mais en fait t'as les mêmes genres de trucs, c'est-à-dire quand Shrek, et c'est là où t'as à la fois des moments immersifs en fait assez... dans Shrek c'est compliqué, mais je veux dire mais justement en fait c'est-à-dire que à un moment donné t'as Shrek qui crache à la gueule de la caméra et tu reçois un jet de flotte sur la tronche et t'as pour le coup t'as vraiment l'impression que Shrek te crache à la gueule, ce que moi j'ai l'impression déjà depuis
c'est
début
un peu
de
le concept
la,
du film
de la licence quoi part, ouais. Depuis le début de la franchise quoi, tu vois, qu'on crache à la gueule, donc du coup c'est voilà, mais le problème
c'est
voilà, et c'est pas agréable en fait, c'est-à-dire que non mais c'est vrai que c'est pas agréable, ouais. et t'as ça dans Ready Player One par exemple, la fameuse scène de Shining, t'as beau savoir quand t'envoies pas du sang sur la tronche, en fait, t'as quand même l'impression que c'est du sang sur la tronche, ouais. Quoi, et c'est assez crade, dans ce genre de truc-là, ça fonctionne. Après, moi, je pense que ça pose... le problème de l'immersion, c'est que ça pose deux questions, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, en général, c'est pas validé par les réalisateurs, en fait, ces procédés, j'ai l'impression, pour l'instant, peut-être que Julien me contredira.
De ce que j'en sais, c'est que c'est forcément validé plus ou moins par les réalisateurs, mais en tout cas, c'est pas conçu par les réalisateurs.
Et la question, c'est ce qu'ils ont tout testé, quoi. C'est ça le problème, quoi.
La boîte derrière 4DX, c'est une boîte coréenne qui met en place, en gros, la piste d'effet 4DX et qui ensuite est fournie dans le monde entier aux gens qui utilisent la technologie.
Voilà. Et du coup, le problème, c'est que tu te retrouves effectivement avec des moments où c'est un peu... Enfin, moi, je trouve ça un peu absurde. Tu parlais d'Aquaman, mais par exemple, quand tu as un espèce de mouvement de grue ou un truc comme ça dans Ready Player One, en fait, tu sens le vent. Mmh. Et du coup, la question que je me pose, c'est mais je suis qui ? Je suis spectateur ou je suis le caméraman ? Je suis qui, en fait, là-dedans ? Parce que qui ressent cette logique-là, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui avait été complètement défait de la logique du sens du mouvement de caméra en question et que ça a été rajouté juste par souci, en fait, de pas
te flouer.
Ouais, puis voilà, sortir du processus, en fait. Donc, t'as des moments comme ça. Par exemple, quand ils arrivent à la fin dans la grande bataille, en fait, quand ils vont ouvrir l'orbe, t'as beaucoup de flammes, de trucs qui sont autour, et en fait, tu ressens la chaleur aussi. Mais là, c'est pareil, je me disais, en fait, je suis qui exactement ? Parce que tous les persos n'ont pas forcément le costume qui est dans le film que les mecs ont. Enfin, on sait que, comment il s'appelle, Nolan, il a ça comme costume, le costume super sensitif et tout. Ouais. Mais les autres persos, ils l'ont pas forcément. Donc, je suis qui, en fait, là-dedans ? Et comme en plus, c'est un mouvement de caméra qui avance, tu vois, tu te dis, je suis le caméraman aussi. Enfin, c'est super space, en fait, je trouve, comme logique. Mais j'imagine que le problème, c'est que de toute façon, ils pourraient pas utiliser ça sur tout, en fait, quoi qu'il arrive à la fin. En ayant un sens cohérent d'immersion et de mise en scène.
Oui, parce que par exemple, dans la séquence de poursuite au début, comme par le montage on change de point de vue, les fauteuils pourraient pas s'arrêter de te secouer.
Non, mais là, par contre, ça semble plus ou moins cohérent parce que tu restes quand même en fait sur une poursuite. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qui est utilisé, c'est tout simplement des espèces. Enfin, c'est pas exactement comme ça, mais tu sens que c'est un virage, un machin, un truc. Donc ça va encore à peu près. Si ce n'est que, bon, effectivement, il y a pas c'est pas comme Gravity, il y a pas qu'un seul perso, donc tu restes pas collé à la sensation de ce personnage-là. Et c'est pas ça qui casse vraiment l'immersion, on va dire. C'est vraiment des trucs qui, il y a à la fois du gadget, c'est vraiment des trucs space où tu te dis ça me sort du film. Et t'as d'autres trucs plus cohérents et même, comme je disais, comme le coup du sang, en fait, ça rajoute un truc vraiment immersif et dégueulasse. Même si tu sais que c'est pas ça, en fait, puisque quand t'as reçu un autre jet d'eau 10 minutes avant ou un quart d'heure avant, c'était une autre matière, une autre substance, quoi, un autre liquide. Donc le truc, c'est que dans le film, je veux dire. Et donc voilà, c'est ça qui est très bizarre. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça rajoute c'est comme s'il y avait un autre réalisateur sur le film quelque part qui s'est pas mis d'accord automatiquement avec le réalisateur du film en question et qui du coup en fait te dit mais moi je pense que le film c'est ça, c'est mon interprétation, et tu fais c'est super bizarre. Mais après j'imagine que il y a des films où c'est, enfin je pense que les films genre Aquaman, des vrais films de Mongolo, tu vois, je pense que là à mon avis ça doit être rigolo comme à la
tête foraine, quoi, tu vois.
Non, mais je dis Aquaman, mais j'en sais rien, mais je veux dire Kong ou Rampage ou ce genre de truc, quoi. Tu vois, là, je pense que quand c'est complètement débile, ça rajoute de la débilité absolue, et du coup, quelque part, ça doit être marrant.
Tu dis pas du mal de Rampage, je suis désolé, not on my watch, not in my show. Périne.
Non, c'est vrai qu'il y a un côté. Moi, comme David, j'ai vu Gravity là dans ce festival-là. Donc tout ce que vient de dire David, je suis tout à fait d'accord avec. Moi, vraiment cette sensation où déjà, c'est un très grand film. J'étais très contente de le revoir aussi sur grand écran et cette sensation vraiment d'immersion avec le personnage de Sandra Bullock. Moi, je l'ai ressenti et ça m'a fait du bien. Mais avant, j'avais testé cette technologie sur Kong et sur The Meg. C'était quoi, un autre trouble,
deux films intelligents.
Ouais, voilà. Et franchement, d'autant plus sur Kong, ce qui m'avait marqué, c'est à un moment donné, il y a un espèce de monstre, dinosaure, whatever ce que c'est, qui hurle à la gueule des gens et il crache de la bave et on prenait de l'eau et j'étais genre, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Mais sorti de cette sensation-là, The Meg, par exemple, moi j'ai vraiment eu la sensation de me faire maltraiter pendant 2 heures, mais littéralement maltraiter. Ouais. Je suis sortie, je pense, avec des bleus dans le dos parce que je prenais des coups de poing, parce que ça bougeait vraiment dans tous les sens. J'ai failli tomber de mon siège 3 fois. Ça glisse, je tiens à le dire. Voilà, au bout d'un moment, faudrait en parler. Mettez des ceintures de sécurité pour les gens, parce que franchement, ça glisse. Donc, non, mais voilà.
Il faut dire que tu as un certain âge.
Il faut dire que j'ai un certain âge. Non, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation dans ces films-là d'un effet gadget absolu où vraiment. Bon, je dis pas qu'on a besoin de ça demande une réflexion intense, hein, The Meg ou Kong, pour comprendre. Ça demande pas ça, mais clairement, moi, ça a contribué à me sortir encore plus du film, c'est-à-dire que je le regardais encore plus avec un truc extérieur, surtout sur The Meg, où vraiment j'étais encore plus dans le commentaire du commentaire, et ça me, finalement, la partie ce que j'aurais peut-être pu trouver fun dans The Meg, j'en saurais jamais rien parce que je l'ai pas vu comme ça, et je pense qu'en effet. Pour éviter l'effet futuroscope, peut-être, ou l'effet fête foraine, parce que j'ai testé un truc comme ça dans une fête foraine en Espagne, si ça vous intéresse, et ça existe. C'était avec des dinosaures et un chariot et la muraille de Chine. J'ai rien compris, mais ça bougeait beaucoup. Il y avait des bulles. Enfin bon, c'était vraiment très bizarre. Mais voilà, pour éviter cet effet fête foraine.
C'est un film de Baz Luhrmann, non ?
C'était un truc très très bizarre, je tiens à préciser.
À Port Aventura ?
Non, même pas.
C'était pour mon accent espagnol.
C'est un truc en espagnol.
Il était chelou ton accent espagnol.
Non, il parle espagnol, quoi. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? La cuenta, por favor. Non, voilà, mais il y avait vraiment cet effet purement divertissant et gadget que là. Et finalement, se résume dans cette espèce de petit. On a un petit film avant le film qui t'explique comment ça va fonctionner et à peu près tout le panel de ce que tu vas ressentir derrière. C'est ultra violent.
C'est ultra violent.
Tu te fais agresser.
Et c'est filmé comme un besson. Hein.
Vraiment. Hein.
C'est le convoyeur 12.
Comme un mégaton. Tu vois.
C'est ultra, ultra violent. Et donc, après, ça dépend. Voilà. Si on n'a pas la qualité, et encore une fois, le point de vue très, très subjectif d'un film comme, assez subjectif comme Gravity, Moi, je suis pas sûre. C'est même pas facile de manger du pop-corn dedans, ça bouge trop. Hein, ça. Et puis, même les moments où, clairement, l'idée qu'il faut pas que le siège s'arrête, il est tout le temps en mouvement. Je dirais presque que ce qui te rend presque le plus malade, c'est le moment où ça bouge très très doucement comme ça. Donc il y a un effet mal de mer. C'est-à-dire que tu sens que ton corps bouge.
Quand tu vas voir un remer ou un
mais tu sens que ton corps bouge, mais tes yeux ne bougent pas.
À la plage en 4DX, ça c'est chaud.
C'est un peu dur. C'est un petit peu dur de pas avoir le haut-le-cœur. Ouais,
ça secoue un peu.
Un peu trop.
Julien.
Ah, moi, j'ai vu les Indestructibles 2, moi, en 4DX. Je dois dire déjà que moi je suis toujours content en fait quand je vois des trucs comme ça, parce que on parle beaucoup de fêtes foraines, mais le cinéma c'est ça,
c'est un art.
Et moi ça m'amuse en fait, je trouve ça super en fait. Il y a des promesses en fait là-dedans, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le problème fondamental du 4DX, c'est que ça n'implique pas pour l'instant les cinéastes, à ma connaissance, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un savoir, qui vont venir nous éclairer dans la lanterne, mais je crois savoir que les réalisateurs, je suis même pas sûr qu'ils l'expérimentent et tout avant. Et c'est vrai que c'est un souci fondamental, en fait. Parce que de toute façon, l'expérience, ça sera fatalement assez frustrante. Alors peut-être, excepté des choses comme Gravity. Après, il faut départager les choses, et il y a des choses qui sont très prometteuses en fait dans le 4DX. Moi, je vais vous faire part de mon expérience. Moi, j'ai bien aimé les mouvements lents en fait, qui dans le cas des Indestructibles 2 t'invitaient à accroître, parce que c'est ça en fait, c'est tous ces effets là en fait, comme le relief ou même l'odorama pour remonter à des trucs comme ça, même le Dolby et tout, ça change pas fondamentalement le film, mais ça booste tout ce que tu ressens quand c'est bien fait, hein, évidemment. Et ce que j'avais aimé là-dedans, c'est que ça accroît la sensation de grandeur, par exemple, quand c'est bien fait. Hein. Moi, là, en l'occurrence, j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Et ça accompagnait le mouvement de flottement, de découverte, de mouvement, de déplacement dans l'espace que tu peux ressentir avec un beau mouvement de grue bien calibré, bien agréable. Il y avait un autre truc qui fonctionnait super bien dans les Indestructibles 2, qui était les flashs en fait, qui ont été atténués pour la sortie Blu-ray d'ailleurs, puisqu'il le film provoquerait des crises d'épilepsie, mais en tout cas du coup alors 4DX là c'était radical quoi, mais c'était super parce que là pour le coup c'est ce que devaient ressentir les héros auxquels tu étais amené à t'identifier, et ce côté le méchant en fait qui est en train de t'hypnotiser avec ses flashs qui inondaient entièrement l'écran, ça t'immergeait encore plus je trouve dans l'expérience. Et puis il y avait un autre truc qui était super sympa, c'est que le 4DX peut aussi provoquer de la neige. Et du coup, le jet de neige avait été réservé juste pour la fin, quand ils arrivent à faire arriver, à rimer le bateau. Et voir cette neige qui tombe dans le cinéma, ça avait quelque chose de festif, qui permettait d'accroître en fait ce sentiment de soulagement et de voilà, on arrivait, on est là. Après, oui, il y a effectivement des effets qui étaient trop utilisés, qui étaient trop présents, les bagarres avec les sièges qui bougent. Moi, j'aime bien ça parce que ça peut bien t'impliquer et ça peut être aussi violent. Puis c'est un truc que tu ressens, toi. Enfin, dans un Jackie Chan, tu sens les coups et tout, donc ça peut être intéressant de les avoir, mais il faut que ce soit utilisé à bon escient et au bon moment. Et ce qui était très bizarre, en fait, c'est que tu ressentais le même choc quand c'était le monsieur indestructible qui mettait un nion ou quand il prenait quelque chose dans la tête. Alors du coup, c'est pareil, c'était ambivalent. Enfin, tu rentrais, tu ressortais, tu rentrais.
Des problèmes de cohérence, quoi.
Voilà. Et puis pareil avec les jets d'eau. Voilà. Bon, tout a été dit, quoi. Mais ce serait bien qu'un cinéaste. Apparemment, quand le 4DX avait été lancé, Alfonso Cuarón avait dit que ça l'intéressait, en fait, qu'il était amené à se pencher dessus. Bon, depuis, il a fait un film pour Netflix, donc ça peut l'opposer de ça. Mais
en 4DX,
mais moi, j'ai envie.
C'est moins ça,
oui,
je serais hors de l'eau un peu.
J'aimerais vraiment qu'un cinéaste de la trempe de Cuarón, ou peut-être Cameron avec les prochains Avatar, se penche là-dessus et réfléchisse à la façon dont on peut provoquer ça. Parce que je pense qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est comme le relief. C'est-à-dire que tu peux aussi provoquer du coup des sentiments contraires par rapport à ce que tu vois. Ouais. Ce serait génial qu'un Scorsese se penche là-dessus, sur cette technologie, comme il a pu se pencher sur le relief avec Hugo Cabret. C'est-à-dire que je pense qu'il serait amené à enrichir leur vocabulaire de façon absolument passionnante. Je serais très curieux. Malheureusement, je pense que le principe même est pas c'est compliqué de faire faire admettre que ça puisse être noble en fait le 4DX, oui. Je pense. Ce qui est, il me semble que ce qui était moins difficile en fait avec ouais. le relief. Ouais. Là, je pense que c'est un peu plus compliqué. Donc je suis pas sûr que ça arrive un jour, mais ce serait cool que ça arrive. Moi, ce qui me désole aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est de voir qu'il y a beaucoup de salles en 4DX, mais voir qu'à côté de ça, en France, on reste toujours à la ramasse, notamment sur la haute fréquence. Pour moi, ça, c'est le grand, grand manque. Et sur les salles IMAX, en tout cas sur Paris, parce qu'en province, vous êtes quand même mieux lotis, si vous êtes à Tours, si vous êtes à Montpellier. Mais voilà, ça reste quand même un gros problème, parce que même si j'aime bien le 4DX, je trouve que pour l'instant, la haute fréquence ou l'IMAX sont beaucoup plus intéressants.
Plus intéressante. Ouais,
juste à revenir, moi j'avais vu aussi j'en reviens sur The Meg parce que je l'avais vu en 4DX ScreenX. Ouais. Donc c'était avec aussi les écrans sur le côté qui allongeaient l'image d'une certaine façon, enfin qui donnaient plus de champ de vision. On avait une sorte de un peu de périphérique d'une certaine façon. Et j'avoue que le cumul en tout cas de la 4DX plus le ScreenX était encore un petit peu plus perturbant parce qu'il y avait presque un trop plein d'informations, c'est-à-dire que non seulement il y avait l'information de ce qui se passait à l'écran, de l'histoire, etc. Il y avait l'information de tout ce que ton corps était en train de ressentir parce qu'on se faisait taper par les requins, et puis il y avait
en plus ta périphérie elle change, enfin c'est ça, oui, je comprends pas, fait, de mélanger
non,
les deux
pas tout le temps. En fait c'est pas tout le temps, c'est à des moments
précis, je sais, mais enfin quand tu bouges et tout, ce qui fonctionne dans le 4DX c'est que tu te focalises en fait sur cet écran qui est face à toi. Donc si tu as des trucs périphériques alors que tu bouges,
en fait souvent il y a rien quasiment sur la périphérie. Ouais. C'est juste par exemple quand tu es sous l'eau, bah tu es encore un peu plus sous l'eau quoi. Mais il y avait un autre souci que j'ai ressenti avec ce ScreenX, c'est que clairement les murs sur le côté où était étendu l'image et l'écran principal étaient de couleurs différentes en fait. Ouais. Donc ce qui faisait que
ouais, c'est des vrais murs. C'était pas vraiment des écrans.
Ils étaient gris. Ils étaient gris là où l'écran était plus blanc en fait. Ouais. Et donc il y a un contraste de couleurs qui fait que d'un seul coup l'image elle est assez perturbante, elle est vraiment coupée et je trouve que il y avait ces trucs de sur les télés là à un moment donné où il y avait la lumière l'ambilight voilà, qui donnait l'ambiance de l'image en fait. Et finalement ça marchait mieux que ça qui d'un seul coup on est. Encore une fois, il y a une information de trop, parce que la couleur, elle change elle aussi, et on n'est pas vraiment impliqué dans cette ambiance sous-marine, par exemple, parce que c'est principalement sous l'eau que ça se faisait. On est moins impliqué dans l'ambiance sous-marine, on est juste là, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas de la même couleur, l'eau, elle est un peu dégueulasse sur le côté. Et en plus, je me prends des coups de pied. Mais donc, il y a... Encore une fois, je suis d'accord avec Julien, on disait que il va falloir qu'il y ait une réflexion qui soit un petit peu plus poussée. Il va falloir encore une fois qu'on travaille les outils, tout simplement. C'est-à-dire, quitte à faire du ScreenX, réfléchissons à comment on peut avoir des écrans. Même, en plus, comme l'espace, encore une fois, c'est des angles, c'est des vrais angles. Peut-être revoir une sorte d'arrondi pour que ça ait plus de sens avec le champ de vision, en fait. Donc, il y a quelque chose qui est en travaux, qui peut être intéressant, mais qui, pour l'instant, est juste un tout petit peu agressif.
Je vais juste rajouter un petit truc sur les possibilités là-dessus, parce qu'encore une fois, il ne faut pas regarder ça de haut. Et si vous avez eu la chance de faire le T2 3D, en fait, Universal Studio, c'était génial parce que tu voyais exactement ce que pouvait donner. Il n'y avait pas tout, c'était pas exactement comme le 4DX, c'était pas vraiment comme la technique dont on vient de
parler. Le ScreenX.
Voilà, merci.
Non, mais tu as des acteurs.
Enfin, tu avais plein de choses.
Tu avais des
cascadeurs sur scène. Des fumigènes, tu avais les décors autour de toi qui évoluaient.
À la fin, les sièges carrément qui s'écroulent.
Ouais,
en fait,
t'avais de la projection d'eau aussi, je me souviens. Ouais. Mais ce qui était génial, c'est que là, pour le coup, t'avais un point de vue, t'avais un réalisateur qui avait réfléchi au truc, et c'était, mais alors...
Un budget de malade aussi.
Et un budget de fou furieux, mais bon, peu importe. C'est un peu
du théâtre immersif.
C'était une expérience géniale. Alors, sauf au Japon, parce que c'était des Japonais qui jouaient Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, et puis en plus, ils avaient un comportement un peu comme du tokusatsu, là, avec des mouvements très très. Enfin, bon, c'était pas très raccord, mais aux États-Unis c'était génial quoi. Moi, j'ai
adoré cette Universal Studio. Mais bon, après c'est des techniques qui viennent de William Castle ou des trucs comme ça, fondamentalement. C'est des idées comme ça de forains, effectivement, et ça demande à être, je pense, perfectionné, quoi.
Et pourquoi pas, mais c'est vrai que là pour l'instant on disait Gravity, pour le coup c'est le meilleur exemple pour cette 4DX par exemple.
Le Non-Ciné Club continue, vous le savez, c'est la tradition. Avant notre prochain sujet, on joue.
Show me what you got.
Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. On va causer de récompenses techniques dans un instant. Et donc, j'ai choisi un petit questionnaire absolument vachard sur cette même thématique. Et ouais, Sébastien, est-ce qu'on peut mettre le chronomètre, le petit ticker derrière, histoire de se mettre dans une ambiance un peu question pour un champion? Superbe.
Il est là.
C'est superbe. Alors, c'est parti. Première question. Lors des tout premiers Oscars en 1929, quel film a été récompensé pour sa photo?
Anaconda.
Non. Ce n'est pas Anaconda.
1929.
Oui.
Pour sa photo.
Ouais. Qui a eu l'Oscar de la meilleure photographie?
Un John Ford.
Best cinématographie? Non.
Oh, c'est con, j'ai lu tout à l'heure.
Comment ça?
La honte.
T'as révisé
tout à l'heure?
C'est pas Les Ailes.
Non. Non, c'est L'Aurore de Murnau.
Ah, putain, oh, meilleur budget.
Eh ouais. En quelle année a été créé l'Oscar du meilleur montage?
1936?
Presque.
37?
Non.
35?
Non.
34?
Oui, 1934. Bon, je ne vous demande pas qui l'a eu. Hein. C'était Eskimo de W.S. Van Dyke. Voilà. Quel est le premier make-up artiste à recevoir l'Oscar du meilleur maquillage en 1981?
Alors, c'est Rick Baker pour Le Loup-Garou de Londres, mais il y en avait déjà eu un avant, donc oui. tu réviseras tes fiches.
Non, c'est le premier Oscar officiel. Avant, c'était des Oscars de...
Exceptionnel, il y en avait eu un pour John Chambers avec La Planète des Singes.
Tout à fait, mais c'était pas un Oscar avec des compétitions.
Ont lancé...
Parce qu'ils ont cru que c'était des vrais singes, c'est pour ça. En
ils
fait.
Ont lancé la compétition des meilleurs effets spéciaux de maquillage avec Le Loup-Garou de Londres.
Tout à fait, donc c'était ma question d'après, c'était pour quel film, et donc c'est pour Le Loup-Garou de Londres, effectivement. Et enfin, dernière question, du coup, avec 18 nominations et 4 Oscars, qui est le directeur photo le plus primé de l'histoire?
18 nominations et 4 Oscars?
Ouais.
4.
Je sais pas.
T'es un directeur photo?
C'est Leon Shamroy.
Voilà.
Et voilà.
Bah, on est nul.
Et ouais, vous êtes nul.
C'est déprimant.
La violence.
Et genre, tu savais tout ça, toi?
Ah, bien sûr que non.
En plus, j'ai failli dire L'Aurore de Murnau, mais je me suis dit, mais il est pas sorti en 29.
Ah bah, il a été récompensé en 29.
Moi, ouais, pour moi, c'était un film de 27.
Ouais, genre, fais pas genre.
C'est vrai.
Fais pas pour moi, c'était un film de 27.
Bref, le jeu est fini, on fait pas le jeu après le jeu. C'est comme ça, c'est comme ça.
Moi, j'avais répondu Anaconda.
C'est vrai que t'avais répondu.
Ce qui, normalement, techniquement, rentre dans la catégorie meilleure réponse, quoi qu'il arrive.
C'est vrai que normalement, c'est un point bonus. Mais on a des plaintes sur le live. Il y a des gens qui ont acheté Anaconda, Stéphane, à cause de toi. Et qui maintenant te demandent de les rembourser.
Faut qu'ils le voient. Faut qu'ils le renvoient.
Ils vous donnent toujours plein de clés, en fait.
Il y a quelqu'un qui a dit, rends-moi l'argent.
T'as un budget remboursement.
C'est moche. On ouvre une page polémique car les Oscars ont réussi à créer un suraccident pour leur édition de l'année qui aura lieu le 24 février prochain après le bazar créé par le retrait de l'animateur de l'édition Kevin Hart après l'exhumation de quelques sorties homophobes. Voilà que désormais ça coince au sujet de la diffusion de télé de l'événement jugé trop longue par la chaîne ABC qui en assure la retransmission. Elle a failli être amputée d'une partie des Oscars techniques. L'Académie a proposé de remettre les prix pour le meilleur montage, la meilleure photo, le meilleur maquillage pendant les pauses publicitaires, ce qui est plutôt sympa pour tous ces métiers assez essentiels quand même à la fabrication des films. Ça a beaucoup fait râler quelques très grand nom, de Guillermo del Toro à Martin Scorsese, en passant par Quentin Tarantino et Alfonso Cuarón. L'Académie est donc rétro-pédalée en fin de semaine, annoncé que tous les prix seraient remis durant la retransmission comme il se doit. Ça vous inspire quoi, les amis? Tiens, Julien, toi qui es attaché à ces métiers de l'ombre importants.
Oui, mais moi, les Oscars, j'en ai un peu rien à faire.
Enfin, nous tous,
j'aime pas les trucs de...
C'est le symbole derrière.
Et puis en plus, je trouve ça ennuyeux à mourir, donc c'est aussi logique.
C'est 3h30 en plus.
Non, mais alors, par contre, ce qui est intéressant, si ça sert à quelque chose, les Oscars, c'est bien, c'est assez poste là, enfin je trouve que c'est voilà là, et puis c'est enfin ça peut être j'allais dire c'est souvent plus pertinent, mais c'est pas vraiment vrai parce que c'est parfois un peu les prix de rattrapage aussi,
oui. Hein.
mais ce qui m'interpelle en fait dans cette histoire maintenant, c'est faire un tollé, et c'est bien parce que en France au César, la dernière fois que j'ai regardé, alors peut-être que vous allez me faire mentir, peut-être que je raconte une ânerie, mais les prix techniques, comme ça, ils sont bazardés tous en groupe,
oui.
Comme des malpropres. Enfin, c'est pareil pour les Césars d'animation. Je crois que c'est le court-métrage était donné
en même temps.
Alors, je crois que c'est plus le cas maintenant pour l'animation, mais en tout cas, ça a été comme ça. C'est encore le cas.
Et là,
ça va. En France, c'est bon, quoi. On peut tout bazarder, tous ces postes-là, les uns après les autres.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les film en France.
Ouais, mais
le CNC.
Donc voilà, au moins ils ont fait ça. Après, c'est toujours ce qui est toujours intéressant aussi avec les Oscars, c'est que enfin, il y a quand même des choses intéressantes dans les Oscars, notamment ça, c'est que tu vois souvent avec les notamment dans les postes techniques comme ça, des fois des tensions, des injustices, ou quand le cinéma est un peu en retard par rapport à ce qui est en train de se faire. Et tu prends le pouls en fait de comment l'industrie perçoit tout le groupe en fait qui travaille autour, et je trouve ça bien en fait qu'ils aient rattrapé ça, parce que les Oscars par le passé ils se sont quand même rendus coupables de choses un peu dégueulasses. L'exemple qui me vient vraiment à l'esprit, c'était sur l'Odyssée de Pi de Ang Lee, où c'était en pleine crise des effets spéciaux visuels à Hollywood, et les gens qui ont reçu donc l'Oscar des meilleurs effets visuels pour l'Odyssée de Pi avaient été chintés en plus par la musique des Dents de la Mer, ce qui est au moment où ils allaient justement parler du fait qu'il y avait une crise monumentale à Hollywood, que les mecs ils étaient très très mal payés, et que la société qui recevait le prix était en liquidation en fait judiciaire, parce que justement ils avaient bossé à perte sur l'Odyssée de Pi. Donc voilà, de temps en temps quand même c'est ça qui est important en fait, c'est là où je disais que c'est important pour tous les techniciens, c'est que ça leur offre quand même une tribune publique qu'ils n'ont pas autrement quoi. Voilà. Mais je trouve ça très bien que les gens se soient relevés. C'est pas pour ça que j'ai regardé quand même les Oscars. Ou ça m'intéresse vraiment.
Les 200 minutes des Oscars long, de l'année, Périne.
Il y avait pas que, enfin, il y avait les Oscars techniques, mais il y avait aussi le court-métrage qui devait sauter. Fait, ouais. Et c'est la question que moi je me pose, c'est à quel moment on décide que c'est ces prix-là qui doivent sauter en fait. C'est-à-dire que l'Oscar technique. Parce que visiblement, on considère que c'est moins intéressant. En tout cas, c'est des métiers qui sont moins visibles du grand public, qui les identifient moins. Mais pourquoi le court-métrage aussi doit sauter, enfin, je veux dire. Et à un moment donné, je crois qu'il y avait eu cette histoire qui voulait dire « Oui, mais là, c'est cette année, on prend ces quatre-là, puis l'année prochaine, ça sera quatre prochains. » Enfin, l'idée de la plaque tournante des catégories qui allaient passer sous le radar. Est-ce que vraiment, ils allaient passer à un moment donné meilleur film sous le radar? Je ne suis pas sûr.
Ils voulaient faire pire, ils voulaient tous les aligner, je crois. T'as pas entendu parler de ça? En fait, ils voulaient tous aligner tous les mecs d'un coup, en fait. Et celui qui recevait le prix va sortir du rang pour venir recevoir son Oscar pour gagner du temps.
C'est ce qui se passe, je donne un exemple, mais aux European Film Awards, qui sont donc les Oscars de l'Europe. et donc,
comme beaucoup de choses européennes ne sont pas très connues.
Et ça, à 31 ans. Hein. Par exemple, quand il y a les prix techniques, c'est... on n'annonce pas tous les nommés, machin. Ça a été annoncé avant la cérémonie. Là, on sait déjà qui les reçoit. Et donc, au moment de la cérémonie, c'est tous les gagnants qui sont alignés les uns à côté des autres. Et chacun leur tour, ils reçoivent leur prix et ils disent un mot et demi, je pense, à peu près. Donc,
BAFTA, les Césars.
Ça enlève du drama.
Les Oscars britanniques, les prix techniques sont donnés à part aussi. En fait, il y a une problématique qui est la problématique d'ABC, c'est qu'ils considèrent la cérémonie des Oscars plus comme une émission de télévision. Enfin, c'est ce que c'est pour eux. Donc, c'est une émission de télévision qui est en baisse d'audience depuis des années et qui est financée par la publicité qu'on met au milieu. Ils essayent de le resserrer. Il y a aussi toute la problématique dont tu as parlé en intro sur le fait que il va pas y avoir de présentateur cette année.
C'est la première fois depuis 30 ans.
J'aurais pu aller chercher Paul Hogan. Il a fait un très bon travail il y a 30 ans de ça avec Crocodile Dundee, tu vois. Donc
d'après ce que j'ai compris, ils vont prendre tous les Avengers qui vont venir faire des petits bouts de présentation les uns après les autres. Enfin, c'était une rumeur qui circulait. Je sais pas si exactement.
Et après, ils vont monter un film avec et ils vont faire ils vont l'inclure dans le MCU.
Et toutes les chansons vont pas être chantées, par exemple. Il y a seulement quelques chansons qui vont être chantées, dont Shalalalalo de Star is Born.
Oui. T'as marqué quand même ce film.
Elle parle de Star is Born dans toutes les émissions. C'est quand même difficile.
Et en fait,
elle est obligée de t'offrir le Blu-ray, tu sais.
Le problème avec ça, c'est que d'une certaine manière, le fait de commencer à mettre, à dire qu'il y a des Oscars moins importants que les autres, c'est aussi dévaloriser l'ensemble. Oui. C'est aussi oublier l'intérêt de cette cérémonie, en tout cas le prestige qu'elle est censée avoir à Hollywood et en fait dans le monde entier. Et pour plein de raisons, Hollywood perd vachement de terrain et de prestige depuis des années. je sais pas comment dire, mais les stars deviennent plus accessibles via les réseaux sociaux et donc sont moins les stars qu'elles ont été à l'âge d'or d'Hollywood. Il y a plein de paramètres qui font que ça devient plus compliqué de défendre ce truc incroyable qui fait rêver des stars qui vont aller récupérer
après,
leur
Oscar. L'autre problématique, c'est que tu as quand même un power play énorme hein, derrière, derrière toutes ces... Enfin, je veux dire, il y a des raisons hein, pour lesquelles Shakespeare in Love rafle l'Oscar à il faut le sauver le soldat Ryan, tu vois, et c'est pas parce que Shakespeare in Love est ta meilleure film. Hein. C'est juste en fait parce que t'as le gros Weinstein qui a lancé une campagne de malade derrière.
Ça
quoi.
Se discute quand même.
Ouais, et, bref. Et le truc, c'est que ce powerplay-là, bah, aujourd'hui, en fait, on le connaît. En fait. C'est-à-dire que ça existait pendant 40, enfin 70 ans, personne n'en parlait vraiment. Et en fait, et aujourd'hui, tout le monde en parle dans les trucs de Hollywood. Là, le gag, entre guillemets, c'est que je crois, il me semble que l'Oscar de la photo, en fait, devait passer sous silence. Et c'est John Bailey, le président des Oscars.
Oui,
c'est un ancien chef-op, en fait. C'est complètement fou, en fait, oui, quand tu réfléchis à la situation. Sens, quoi. Ouais. Moi, je suis un peu déçu qu'ils aient trouvé une solution aussi rapidement. J'aurais bien aimé que
tu vois, ça traîne un petit peu.
Non, parce que s'il y avait une pub, par exemple, pour, je sais pas moi, le SFR local, et bah, ils auraient dû faire ça, donner l'Oscar dans le magasin SFR. Tu vois, comme ça, c'était réglé. Ils avaient trouvé un truc, ça devenait un peu ludique. Tu vois. Non, mais enfin, ouais. Après, c'est voilà. Enfin, c'est. Je pense que le fait que ça gueule, c'est même pas étonnant non plus. Mais c'est aussi encore une fois la logique des réseaux sociaux qui font que ça a pris des proportions parce que t'as des grands noms qui se sont mis derrière. Quoi.
Oui, mais c'est rassurant en fait que ces gens se soient battus à un moment donné. Oui. Je trouve ça plutôt rassurant. Mais par contre, je trouve que ça témoigne aussi d'un truc, c'est que ça fait un moment que les Oscars et plein de choses, hein, l'affaire des Oscars So White, etc., qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils doivent devenir, à comment ils doivent se transformer. Et en fait, on sent que les Oscars, chaque année, il y a une sorte de ben on va pousser un nouveau curseur pour savoir à quel moment on arrive à prendre la température, à quel moment on est dans l'actualité, on est proche de finalement du public qui est censé nous regarder. En fait, je pense que c'est depuis quelques années, les Oscars sont dans une énorme période d'ajustement et qui se traduit avec des erreurs, des fausses frappes, des choses. Et est-ce qu'à un moment donné, ils vont trouver la bonne formule? Le temps le dira, mais pour l'instant...
Il y a beaucoup d'erreurs et pas beaucoup de solutions.
Ça démontre qu'ils sont largués. Hein.
Bah, oui, mais c'est ça. Et que clairement, ils tentent par plein de moyens. Là, ils ont poussé un mauvais bouton. Ça a crié. Il y a eu l'alerte rouge. Bam, on repart en arrière. Donc, je ne sais pas du tout comment ils vont pouvoir changer les choses. Mais ce n'est pas les seuls, en réalité. Oui. Enfin, je veux dire, les Césars ont des problèmes tout à fait similaires. Hein, en
soi. Je voulais parler des Césars parce que sur les Césars, il y a eu quasiment le phénomène inverse, c'est-à-dire que une personne qui a gueulé contre le système des Césars il y a quelques années, c'est Danny Boone, pour ensuite imposer cette catégorie du César du box-office en gros, qui d'ailleurs a été une idée aussi rebootée pour les Oscars, qui a été envisagée et qui finalement a été discardée. Et l'autre, comment on dit
alors, rejeté, annulé.
Rejeté, voilà. Annulé. Le mot ne m'est pas venu.
T'as écrit Movie Land quand même, merde.
Là, justement, j'étais en anglais aussi.
Ça s'appelait pas film.
Non, mais et donc, ce que je voulais dire sur les Césars, c'est qu'il y a aussi une autre aberration depuis quelques années. C'est la règle que je trouve complètement débile, selon laquelle le film qui a l'Oscar du meilleur film ne peut pas le César du meilleur film ne peut pas avoir le César du meilleur réalisateur.
Oui. Ce qui fait Oscar que... ou César ?
César, sur le César. Ce qui fait que depuis au moins 2-3 ans, je ne sais plus quand la règle est passée, en fait, le César du meilleur réalisateur, a priori souvent, en fait, c'est le deuxième. Et du coup, on n'honore pas le réalisateur qui a réalisé celui qui
ça,
est récompensé comme le meilleur film.
Ah oui, c'est une règle. Ouais, ça, c'est une règle, ouais.
Et ils l'ont fait plusieurs fois.
Il y a un côté émission de Jacques Martin là.
Je reviendrai aussi, j'apprends des trucs.
Ouais, c'est pour distribuer des trucs.
Il y a un côté école des fans, c'est-à-dire que tout le monde a droit à son prix. Bon, bah pourquoi pas.
Ce à quoi a servi aussi, Julien le disait tout à l'heure, les Oscars ou César Technique ont pu servir à ça aussi à certains moments, à récompenser des films qui n'avaient pas eu forcément
C'est un peu les prix de consolation, quoi. Ça a souvent été le cas, ou alors des films qui peuvent être au regard de l'Académie un peu triviaux en fait, un peu basiques. Alors du coup, ça pourrait être le cas de Black Panther par exemple, même si j'ai l'impression que Black Panther a tellement un buzz positif pour lui que ça pourrait dépasser tout ça, mais voilà,
je ne sais pas si c'est vraiment pensé comme ça, dans le sens avec le système de vote aux Oscars, parce qu'en fait, le système de vote aux Oscars, c'est que chaque chaque convention vote pour sa corporation.
Même si c'est inconscient, tu vois.
Oui, oui, mais chaque convention vote pour sa corporation. Donc, techniquement, je ne suis pas sûre que les gars de la photographie sont au courant de ce qu'ont été votés les gars des réalisateurs.
Aux Oscars, il y a moins souvent le phénomène qu'il y avait souvent au César, qui est qu'un film rafle presque tout.
Oui.
Et ça, c'est vrai que si tu le regardes comme une émission de télé, c'est chiant parce que, en fait, tu as l'impression que tu vas avoir toujours le même film, toujours le même mec qui va remonter sur scène quand il totalise réalisateur, scénario, etc. Surtout qu'en France, en plus, on a tendance à concentrer les métiers sur la même personne, ce qui est aussi un problème de l'industrie. Mais voilà, donc je pense que ça serait cool qu'il y ait une impulsion aussi en France de remettre en question un certain nombre de choses, même si je rejoins un peu Julien, ce qu'il disait au début, c'est qu'on s'en fout un petit peu de ces cérémonies.
En fait, je pense que les gens qui s'en foutent pas, c'est les gens qui. Soit quand t'es un fan de cinéma, on va dire,
non, et
que
t'as une espèce
de. C'est un peu comme le catch, tu vois, tu crois que c'est vrai, ils se battent vraiment, tu vois. Et le truc, c'est que c'est. Tu vois, donc tu ne sais pas jouer d'avance, tu vois. Mais le truc, c'est que, donc, ouais, quand t'as 15-16 ans, t'es content parce que, tu vois, moi, quand j'avais 22 ans, putain, Titanic, il a eu l'Oscar, tu vois, c'est tout. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné. Enfin, quand je parlais de powerplay, c'est que si, moi, je pense que les gens savent qui vote pourquoi et en fait, ils savent qu'est-ce qu'ils reçoivent comme cadeau pour qu'ils votent pour ce truc-là.
Il y a quand même un effet de masse, on ne peut pas penser que ça non plus. Enfin, c'est quand même un très gros. Il y a un effet de masse, il y a beaucoup de gens qui votent, je ne suis pas sûre que tout le monde sache. Enfin, encore une fois, c'est des stats qui sont faites derrière après. Et puis, oui, on peut s'en foutre des prix, et puis à juste titre ou pas. Enfin, mais c'est juste que moi, je vois aussi des gens de la profession quand ils sont nommés, notamment, je vois dans les catégories premier film, par exemple, quand ils sont nommés, ils sont sincèrement très, très contents. En fait, sincèrement, il y a une vraie. Et moi, je vais
mais
pas
dans la
discréditer
profession,
cette joie-là de dire bon, bah, mon travail, il a été quand même vu.
Dans
il
la
a
profession,
été quand même
ça les intéresse. Mais là, en l'occurrence, on parle des spectateurs, tu vois. Et en fait, qui s'intéresse là-dedans? Parce qu'effectivement, le positionnement sur le glamour, bon, bah, c'est complètement perdu.
Ah, bah ça, oui.
Le spectacle, je veux dire, ils en sont arrivés à plus foutre un comique parce que même le comique est susceptible de foutre le bordel, quoi. Donc voilà, et je veux dire, les Golden Globes, à côté de ça, ils mettent Ricky Gervais trois fois, ils essayent de le contrôler et puis ils n'y arrivent pas, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est bizarre, en fait. Il y a un vrai problème.
Ça a toujours un impact sur les entrées.
Je sais pas si ça a un impact, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'à la fin, tu te rends compte que, ouais, enfin là, s'il y a personne pour présenter le truc, ouais, ça risque d'être chiant. Hein.
Ça risque d'être autre chose.
Ça risque d'être un peu chiant.
C'est quand même malsain de mettre les trucs en compète comme ça, les films en compétition, je sais pas.
Après, les films sont de fait en compétition.
J'ai un problème vraiment fondamental avec
ça. Tu trouves pas le box office?
Parce que vous êtes un odieux gauchiste, Julien.
Non, mais c'est vrai.
Non. Le box office.
Non, c'est pas pareil, le box office, ça n'a rien à voir, quoi. C'est comme les top 10 à la fin de l'année, c'est-à-dire que t'en viens à comparer des choses qui ne sont pas comparables.
Concurrence et compétition, c'est pas la même chose, hein.
Enfin, voilà.
Débat philosophique.
Il a raison, il a raison.
Le box office, c'est la concurrence. Les Oscars, c'est la compétition.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est beau.
Pense.
Sur ces considérations.
Non, mais ça démérite tous ces trucs-là, mais quand même pas beaucoup. Quoi.
Tout à fait. Très bien.
Et c'est chiant.
Oui. On enchaîne. Avant notre prochain sujet.
Faut boire en même temps.
Encore un petit jeu.
Con, oui. Ouais. Show me
what you got. Et comme d'habitude, et pour le plus grand plaisir de David Honora, ce sera un jeu musical pour préparer notre prochain sujet. On va se faire un 100% BO de Disney, 5 extraits de 5 grands classiques de l'animation. Tu restes là, tu ne bouges pas. 5 grands classiques d'animation en VO, évidemment. Le premier qui trouve, comme à chaque fois, a gagné. Premier extrait.
Blanche-Neige.
Bien joué. Deuxième extrait.
Je vais dire une connerie parce que je suis sûr que c'est pas ça, mais bon.
Anaconda.
C'est pas le Noël de Mickey. Ça.
Non,
c'est pas Pinocchio.
Alors.
C'est Peter Pan.
Où vont les étoiles.
Il essaye de gratter dans les paroles.
Tramasser les voix là qui nous parle.
Ça n'est pas Anaconda, je tiens à le préciser.
Ça aurait pu, hein.
Attention. Alice au pays des merveilles.
Voilà, c'est bien. Vous parlez tous en anglais.
Ah,
c'est bien.
Il y a un serpent. Super. Non, il n'y a pas de serpent.
Il n'y a pas de serpent.
Dans le livre de la jungle.
Troisième extrait.
Le livre de la jungle.
Non.
Ah non.
Merlin l'Enchanteur.
Oui, c'est Merlin l'Enchanteur. Bravo. Quatrième extrait, c'est parti.
La Belle et la Bête.
Oui, voilà, c'est bien joué.
Ouais, j'étais déjà trop vieux.
C'est la magnifique. Et même. Le cinquième extrait, c'est parti.
Moana.
Moana.
Mariana, non.
La Reine des Neiges.
Non.
Ah, Tangled, là, Tangled.
Oui, Tangled.
Réponse.
Réponse, voilà. Tout à fait. Ah. C'est réponse.
Bravo. Vous voyez que c'était plus moderne. Bravo.
Oui, c'est un peu plus moderne que les premiers. C'est pas forcément une qualité. Merci d'avoir
c'est
joué
mal,
à tous. Vous êtes
très
beau. La réponse est super. La musique est un peu moins.
La musique est moins bien.
C'est quand même super beau, Faras, là.
Là, de la musique à chier. Ouais, non, d'accord. Le film est très cool.
Mais rassurez-moi quand même.
Allez, on continue. Ça y est, c'est
t'as
presque
pu mettre le bossu de Notre-Dame. Je suis en train de dire, j'aime bien te chanter là dans ton intro. Là, je suis en train de dire,
c'est moi le chef.
Le bossu de Notre-Dame.
T'as perdu ton émission, c'est fini, c'est le bordel.
De Cannes, ton intro là.
Non, j'ai effacé celle-ci.
T'es sûr, hein. Tu nous préviens.
Qu'est-ce qui se passe là?
En gilet jaune,
se calme. Ouais, c'est clair.
On va me faire commencer toujours.
Bande de gilets jaunes.
Je me venge.
C'est donc, je le disais, presque bouclé le rachat par Disney de la 21st Century Fox, le deal le plus juteux du monde du cinéma, plus de 70 milliards de dollars. C'est en cours de finalisation, on annonce sa conclusion pour le mois de juin, ça pourrait encore durer un petit peu au passage. Ça crée, semble-t-il, un léger trouble dans la force, puisque l'ambiance chez Fox serait des plus délétères. Panique dans les étages, on évoque potentiellement 4000 postes supprimés, Variety parle même d'un bain de sang. Alors qu'est-ce qui se passe? On se pose la question. Julien, toi, c'est toi qui nous a alerté sur cette enquête de Variety. Bah ouais, tu l'as cherché, maintenant tu vas la voir, crois-moi. Tant que j'ai pas vu la pétition, ça continuera.
On est encore dans l'expectative, c'est-à-dire que bien personne sûr. Ne sait exactement ce qui va se passer, et c'est un deal qui prend beaucoup de temps. Quand il a été annoncé, ça a fait trembler tout le monde. Et moi, je suis pas spécialement, mais je connais des gens qui travaillent dans la finance, et j'avais dit, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a des règles. Normalement, une grosse entreprise comme ça ne peut pas en absorber une autre. Il me dit, non, mais tu vas voir, de toute façon, ça va pas se passer. Ça n'a pas été signé. Et bah si, ça s'est passé. Bon alors. Ils ont des contreparties, ils ont des branches en fait de la Fox qui doivent revendre sous peine d'avoir des amendes, voire même que ça rende peut-être le rachat caduc, je crois. Enfin bon, mais il n'empêche que ça va être effectif, et ça va être effectif en plus à la fin du mois, là, apparemment en février. Et en fait, alors il y a plusieurs choses, c'est que pour l'instant, quand Disney avait racheté notamment Lucasfilm et tout ce qui avait lié avec Lucasfilm, notamment ILM, Industrial Light and Magic, ils ont pas licencié de gens en fait, et ça n'a pas changé fondamentalement la structure en fait des sociétés. La qualité, ce qui s'est passé à l'intérieur de Lucasfilm, ça c'est un autre débat, mais en tout cas voilà, sur la structure. Le truc, c'est que apparemment, si j'ai bien tout compris, parce que moi je ne suis pas financier, loin de là, Dieu m'en préserve, mais apparemment Disney a dit en rachetant Fox, mais nous on va faire des économies assez radicales. C'était un signal vis-à-vis des actionnaires, de tous leurs argentiers, on va faire des économies pour encaisser un peu ce rachat qui est quand même totalement monumental. Ouais. Et du coup, tout le monde est un peu en train de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? En plus, il y a une autre problématique. Forcément, c'est un grand studio qui rachète un grand studio, ce qui est sans précédent dans l'histoire d'Hollywood. Et évidemment, il y a des doublons, il y a des postes qui vont être en doublon, mais aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ça se trouve en France, l'antenne Fox en France, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, en fait, y compris les gens avec qui nous, journalistes, on est amenés à travailler, comme Alexis Robinovitch, par exemple, et tout. Je ne sais pas s'ils vont garder leur poste. Je ne sais même pas si eux savent à l'heure qu'il est ce qui va se passer, parce qu'apparemment, c'est très, très pacte, mais ce qui n'est pas d'ailleurs forcément de la faute de Disney, mais tant que c'est pas effectif, de toute façon, on n'a pas leur plan. Moi, il y a un truc qui est apparemment sûr et certain, et moi, c'est un des trucs qui me fait vraiment peur, c'est que de toute façon, la branche de la Fox, une fois qu'elle va être absorbée par Disney, va produire beaucoup, beaucoup moins de films. Ça va être quasiment réduit de moitié, en fait. Et alors, d'une part, de toute façon, que les cinéastes aient un guichet en moins pour essayer de monter leur film, de toute façon, en soi, c'est très, très inquiétant.
Oui, c'est déjà une mauvaise
nouvelle. Que tous les films qui ont vraiment révolutionné un peu l'industrie de Avatar à la Guerre des Étoiles et tout, ils ont eu besoin, en fait, de ce levier-là, d'aller voir un studio, puis un autre, et de dire, mais attends, lui, il a peut-être un peu intéressé. C'est comme ça qu'Avatar s'est monté.
Oui, bien sûr.
Fox ne voulait pas mettre le pognon. Cameron est allé voir Disneyland. Je crois qu'on l'avait déjà raconté, en fait, à nos ciné. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc là, dans le cas présent, comment Cameron aurait réussi à monter Avatar? Ça, c'est quand même la grande question. Et en plus, le fait que ce studio-là soit amené à produire beaucoup moins, c'est inquiétant. D'autant plus inquiétant que moi, la Fox, c'est un studio que j'ai vraiment détesté pendant très longtemps. Mais je trouve que dans ces derniers mois, voire années, c'est un studio qui fait des choses intéressantes, qui prend des risques. Les Veuves, c'était eux. Le prochain Joe Cornish, c'est eux. Logan, c'était eux aussi. Tout ça, c'est des trucs, c'est parmi les seuls, en fait, à oser faire des choses comme ça. Même Warner, qui était le studio le plus réalisateur
friendly,
j'allais dire, mais je me suis dit, merde, je vais utiliser un anglicisme, c'est pas possible.
Ça arrive
bon, mais voilà, même eux, en fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus sur la réserve, en fait, ces dernières années, alors qu'eux, ils font même quand ils font des trucs de Marvel, on en pense qu'on veut, mais ils font un truc comme Deadpool, c'est-à-dire qu'ils essayent un peu de faire bouger un petit peu les lignes et de bousculer tout ça. Et je parle pas du deal qu'ils ont signé avec Guillermo del Toro, et puis évidemment de leur relation avec James Cameron. Parce que moi, c'est aussi le truc qui m'inquiète. Alors ça n'a rien à voir avec les annonces qui ont été faites vis-à-vis de l'industrie, mais c'est compliqué, je pense. Enfin, c'est-à-dire qu'il va... Cameron, c'est un mec qui, par la nature de ses films, en fait, est amené à un moment ou à un autre à se confronter au pont des studios. Ça a quasiment été systématique sur tous ses films. Et je me dis que ça pourrait devenir compliqué. C'est-à-dire que Avatar, c'est pas encore sorti. On sait pas exactement où ils en sont. On sait pas exactement combien les films ont coûté. On sait que ça a coûté très, très cher. Moi, ce que je constate quand même, mine de rien, et j'ai du mal à me dire que c'est complètement indépendant de ce rachat-là, c'est que Lightstorm a augmenté son activité. Donc, là, on a vu Alita qui est sorti. Il y a les Terminators qui vont sortir. Et Lightstorm, auparavant, c'était un studio. Il produisait quasiment que les films de Cameron. Et de temps en temps, il y avait une prod à côté, mais ça restait assez sporadique et assez exceptionnel. Et je me demande si tout ça n'est pas aussi une façon pour eux d'engranger des moyens pour peser un peu plus dans la balance vis-à-vis de cet interlocuteur qui va devenir un peu unique, un peu monolithique. Et puis aussi, mine de rien, ça va remettre aussi une partie des compteurs à zéro. Ouais. Aussi,
la notion de racheter la Fox, à la base, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils ont besoin Disney a besoin d'énormément de contenu pour son site de streaming.
Il y a le catalogue aussi,
qui est censé arriver à la fin de l'année.
Et le fait de pouvoir récupérer l'épisode 4 de Star Wars. Au passage.
Par exemple. Mais après, je ne sais pas si c'est des enjeux aussi. Enfin, je sais même pas s'ils réfléchissent vraiment comme ça, en fait, sur un film ou sur un truc. Tu vois, la problématique d'Avatar, par exemple, tu as cité la politique du studio Fox, en fait, ces dernières années. Mais tout ça, c'est tellement cyclique, en fait, c'est tellement dépendant des gens qui y travaillent, et c'est tellement, Fox, pendant 10 ans, les 10 années d'avant, c'était infernal, en fait. Le truc, c'est que. Ça, c'est cyclique. On ne sait pas où Disney va aller finalement à la fin, dans 15 ou 20 ans. On ne sait pas où ils en seront, quoi. La problématique là-dedans, c'est que dans ces logiques cycliques, le seul truc, moi, qui me fait peur vraiment littéralement pour Avatar, c'est que il y a une personne qui contrôle ce contenu-là, et c'est Cameron, en fait. Et ça, c'est pas la politique de Disney actuellement, quoi. C'est tout. C'est-à-dire que c'est là où moi j'ai peur, en fait, pour le film, si on aborde ça d'un point de vue cinéphile. S'ils sont pas trop stupides, ils ont vu les scores du premier film, ils ont vu ce que c'est le potentiel qui existe. Donc on verra, quoi.
C'est sur ça que va se baser Disney. Hein. Disney ne parle qu'en chiffres, hein, de toute façon. Hein. Donc comme le premier a rapporté je sais plus combien de milliards,
2,8.
Disney, pour l'instant, Cameron, il devient un super interlocuteur, en fait, pour l'instant. Après, il faudra voir ce que sera le résultat du prochain Avatar. Mais c'est vrai que d'un seul coup, cette fusion... entre Disney et la Fox, ça représente 40% du marché, en fait. Donc, Disney tout seul va représenter 40% du marché. Un peu plus d'un tiers. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est assez dangereux. La dernière grosse fusion qu'il y a eu comme ça, c'était Warner avec AT&T. Donc, c'est une fusion, mais qui est plus sur le côté des communications, etc., qui a posé énormément de problèmes aux États-Unis aussi. Elle a été validée, je crois, en juin dernier, 2 ans après avoir été officialisée. Parce qu'elle doit passer par une sorte d'autorité de la concurrence. En plus, il y a eu une complication supplémentaire, c'est que Trump s'était mêlé de l'affaire. Parce que dans TNT, il y a CNN, et que CNN, c'est fake news et qu'ils voulaient les bloquer. Mais finalement, ça a été validé. Donc là, pour l'instant, c'est depuis décembre dernier qu'il y a cette idée de rachat. Le rachat va être officiel à la fin du mois. Mais ça ne sera pas...
Fox Disney, tu veux dire ? Ça fait un an et demi, hein.
C'était décembre dernier.
Hein. Non, c'était, ils en ont parlé la première fois en octobre. On en a même fait, je crois que c'est le premier de nos ciné-clubs sur lequel on a parlé de ça.
Oui, mais le fait que ça ait été vraiment officialisé.
Que ce soit vraiment officialisé, ouais, d'accord.
Mais... Et là, le fait que ça soit les comptes, tout soit fait, ça soit à la fin du mois. Et le plus tôt que le sort d'autorité de la concurrence, qui n'est pas appelé ça comme ça, mais aux États-Unis, ce ne sera pas avant juin prochain que ça sera validé, mais ça va prendre des années. Va prendre très longtemps pour que les tout soit absorbé. Mmh. Et la technique de Disney, ça va être aussi, on parle de 4000 au plus bas d'emplois supprimés, mais qui vont être supprimés au fur et à mesure. Ils ont prévu, je crois, 2 milliards de côté pour gérer cette perte, pour rembourser les gens qui vont être virés. Donc en fait, ce qui est un peu flippant aussi, moi je pense d'un point de vue, mais vous l'aviez déjà évoqué, c'est tout simplement la diversité des contenus, la diversité, qu'est-ce qui va se créer ? Est-ce que ça va permettre à quelqu'un d'autre d'émerger ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un
petit peu... Ça a joué en faveur de Netflix, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens de Fox qui sont partis déjà chez Netflix.
Mais après, je me demande dans les ceux qui sortent au cinéma, et puis est-ce que vraiment cette plateforme Disney, en même temps, c'est assez fort de la part de Disney, c'est l'un des seuls qui arrive encore à résister justement à Netflix, en fait. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est assez fort là-dedans, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on réduit les interlocuteurs quasiment à deux. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu craigneux en termes de diversité, et puis de prise de décision. Enfin, c'est d'un seul coup, Disney devient une sorte de pays à lui tout seul. Il a plus de 200 000 employés dans le monde, plus ceux de Fox, on va être à plus de 250 000. Donc c'est quelque chose d'assez inquiétant qui là est dans le monde, circonscrit au monde du cinéma, mais qui peut se circonscrire dans beaucoup d'autres domaines, en fait. Et on va avoir affaire à des super grosses entreprises, des super gros pôles. Et disons que les histoires de trust, elles vont devenir de plus en plus dures à empêcher, en fait.
Après, la logique, c'est que c'est quand même censé, ils sont censés avoir une espèce de marque Fox, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ils veulent garder le logo, ils veulent garder la fanfare, ils veulent garder les trucs. Donc il y aura forcément des films. Est-ce que ça va devenir leur pôle?
Est-ce que c'est leur searchlight à eux?
Ouais, leur pôle auteur, comme par exemple, pour prendre l'exemple de Disney, où ils avaient dans les années 80. Je pense pas non plus.
Ça va devenir leur Hollywood Pictures.
Voilà, c'est ça. Je suis en train de dire, voilà, quand ils avaient Touchstone, Hollywood Pictures, des trucs comme ça, en fait, dans les années 90, mais Bruckheimer, il faisait ses films d'action et c'était pas labellisé Disney à proprement parler, même si c'était chez Disney quand même, quoi. Mais tout ça, c'est des trucs où, oui, Fayette essaye de t'expliquer qu'ils vont garder ces logiques-là, mais je pense que l'aspect créatif, c'est vraiment le cadet de leurs soucis pour l'instant, quoi.
Après, il y a un autre aspect qu'on avait déjà évoqué au moment où on avait parlé dans un des premiers nos ciné-clubs de la rumeur de ce rachat.
Oui,
le risque en chantant un studio, même si on en garde les apparats, les logos, etc., c'est aussi de faire disparaître un savoir-faire. Alors, c'est vrai que d'une génération à l'autre, en fonction des têtes qui changent et des gens qui passent dans le studio, ben la qualité peut varier, mais il y a aussi une approche qui est quand même historique et qui existe dans l'histoire des studios qui correspond aussi à une identité spécifique d'un studio à l'autre. Et mine de rien, alors comme tu disais, Julien, sur les cas par exemple spécifiques d'Avatar et de la Guerre des Étoiles qui sont des tournants dans l'histoire du cinéma, certes il a fallu faire jouer la concurrence, etc., mais c'est quand même des films Fox et ça a certainement une histoire, il y a certainement des raisons pour ça, et le risque, en fait, c'est que le rouleau compresseur qui est le modèle de production Disney et on pense aussi à celui qui était le modèle de production Marvel et qui a été, oui, à mon sens, exactement celui appliqué après le rachat de Lucasfilm. Si c'est cette même démarche qui est appliquée à la production, c'est effectivement très inquiétant d'un point de vue créatif.
À se devenir un modèle unique, enfin, il y a un côté tout va être fait sur le même patron.
Et surtout, je pense
que ça tient pas, hein, je pense artistiquement parlant, je veux dire.
Je pense qu'on ne perçoit pas encore ce que va être la plateforme de streaming de Disney et la puissance que va avoir ce truc. Et ça peut complètement remettre en question, de manière générale, la production et la diffusion cinématographique. C'est-à-dire que tel qu'on la connaît aujourd'hui et les sorties salles, etc., c'est quelque chose qui a un tel poids que ça peut complètement changer. Alors, peut-être pas forcément en mal, pardon, si on veut être optimiste, Mais je pense qu'on va voir dans les prochaines années des mutations très, très, très importantes dans l'industrie.
Moi, j'ai du mal à pas me dire que ce mastodonte... c'est Johan de Rokirama qui m'avait sorti ça. Je me rappelle quand ils avaient acheté Lucasfilm, Disney, mais je trouve que c'est une image qui me parle bien, quoi. Il m'avait dit c'était Tetsuo à la fin d'Akira, en fait. J'ai du mal à croire que cette espèce de gros mastodonte informe, énorme, là, qui est en train d'absorber toute la culture, ne va pas s'effondrer sous son propre poids, en fait.
Oui. C'est le problème. Hein.
Ces trucs gigantesques comme ça, énormes en général, hein, y a toujours un truc où... Et c'est pas simplement dans le cinéma, hein, dans toute société humaine et tout. Il faut un cœur tellement gros pour faire battre là-dedans. Faut que le organiquement, faut que ce soit tellement puissant, que j'ai du mal à m'imaginer que ça va pas, en fait, s'effondrer, en fait. C'est trop gros, c'est trop énorme. Avec ce truc où moi, je me dis ça, par exemple, sur les films Marvel, je me le dis depuis un moment, en fait. Puis ça n'arrive pas. C'est vrai qu'ils arrivent à tenir et tout, alors que je trouve déjà ces trucs informes, quoi. Le dernier Avengers, c'est une espèce de gros machin qui n'a ni queue ni tête, où il n'y a aucune cohérence. Et puis, bah, ça tient, les gens continuent à y aller, etc. Ouais. Mais bon, il n'empêche que quand je vois ça, là, je vois ce conglomérat gigantesque qui va être effectivement ce qu'ils avaient fait dans les années 90 avec Hollywood Pictures et puis Touchstone et tout. Ouais. Mais de façon exponentielle, enfin, c'est beaucoup beaucoup plus gros, quoi. J'ai du mal à me dire que ça va pas crever, en fait, de sa belle mort.
Moi, je me demande s'il y aura une série Disney Superstructure sur RMC de Découverte.
Voilà, exactement, ça serait
vraiment vachement bien. On s'approche de la fin, les amis. Vous pensiez y échapper, mais non, il reste évidemment encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé!
C'est évidemment le jeu préféré de toute l'équipe, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration. Sébastien, premier extrait.
Passez-moi l'expression, mais vous êtes un vrai con!
Qu'est-ce que vous voulez?
Un vrai con!
Vous aviez parfaitement raison, monsieur, vous aviez mis en plein dans le mille. Essayez de la trouver, vous!
Je n'ai pas encore terminé, est-ce que vous m'avez compris?
5 sur 5, monsieur Peterson.
Appelez-moi maître, bordel de merde!
Oui, maître, oui, maître.
J'accepte vos excuses.
Oui, allez. Tâchez de plus vous mélanger les pinceaux et de savoir à qui vous avez affaire!
Non. Rien du tout, aucune idée, aucune, no fucking clue. Bon, un deuxième extrait alors, ok.
La recette infaillible pour pigeonner les parents, c'est les mains moites.
Ah, ben bah, bien sûr, c'est Ferris Bueller.
Mais oui, c'est Ferris Bueller.
Je connaissais, en plus, que pour le coup, je l'ai vu en vert.
C'est vrai, bah, pour une fois, parce que vous râlez à chaque fois, parce que je mets des films trop récents. Donc là, j'ai pris un film des années 80 en VF. Oui,
toujours vu en VO, moi.
J'ai vu quand même.
Bah, vous n'avez pas eu d'enfance, que je vous dise. En tout cas, bravo, Julien.
Si, on parlait anglais.
Ouais, non.
De justesse, j'étais mauvais pour les jeux.
Non, Julien, tu as été magnifique, comme toujours. Les autres, j'en parle même pas.
Bon, j'avais des bonnes réponses.
Internet.
Et donc, on est
choqué, Périne, t'as vu, j'aurais chronique ton intro.
C'est nouveau. Elle rigole, mais en fait, elle va pleurer dans deux secondes.
Périne ne pleure pas.
Non, je passe pour quelqu'un de cyclotimique. Hein.
Arrêtez, voyons.
J'aime bien Internet.
C'est vrai, ça te fait rire à chaque fois.
À chaque fois, je rigole. Je suis facile.
À tel point que ton rire fait partie du jingle presque.
C'était moi qu'on entendait.
On déballe donc les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et qui nous regardent en direct. Donc, ma camarade Solène m'en a transmis plein. Notamment, on se fait insulter, me dit Solène, mais dis donc, on se fait insulter, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dites donc. Je remonte du coup. Tiens, Covington qui nous demande si l'échec de Gunham, donc de Alita, Battle Angel Alita, est le début d'une grande campagne de déstabilisation pour tempérer les ardeurs de Cameron sur ses suites d'Avatar.
Mon cul. Mais non, mais enfin, le truc, c'est
déjà,
que.
Déjà, c'est pas un échec.
Non, il a fait un très bon week-end.
Très bon week-end. C'est un film qui a coûté 200 patates.
Oui, mais là, il vient de rajouter 56 millions à l'étranger et il a fait 33 millions.
C'est surtout
localement.
Que ça, c'est bien parti pour marcher cartonnant en Chine, en fait.
Ouais.
Donc ça peut.
La
ça
mort ne déstabilisera pas James Cameron, voilà.
Jamais.
Tout,
jamais. Personne ne déstabilise James.
Tu peux pas. Enfin, de toute façon, comment dire. Déjà, c'est pas son film. C'est-à-dire que voilà, il pourra toujours se retomber là-dessus, quoi. Et il le sait, hein. Je pense qu'il est pas complètement stupide. Il a beau survendre le film partout, dire que Rodriguez était parfait. C'est ce qu'il disait sur Terminator.
Genesis.
Ouais, voilà.
C'est hyper
et aujourd'hui,
c'est
il l'a dit, mais c'était mon pote Arnold, mais on le sait, tout ça, en fait. Et non, il y a pas. Je pense que c'était un film qui était difficile à vendre parce que c'est une licence qui a 25 ans, que personne ne connaît aux États-Unis, qui n'a pas de suivi. C'est incroyable, une licence en fait qui a pas de suivi, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, donc à partir de ce moment-là, c'est un peu normal que si t'as pas un vrai travail en fait pour sur plein de cadres spécifiques pour vendre ce film-là, qui n'est pas parfait, hein, il faut être honnête
non,
aussi.
Bien sûr,
oui. Oui, c'est ça ne va marcher qu'au bouche à l'oreille. J'ai l'impression qu'effectivement les scores un peu meilleurs que ce qui était attendu, c'est un peu le bouche à oreille qui permet de faire en sorte que voilà quoi, mais que ça sorte un peu plus du lot quoi. Mais oui, je pense pas que ça va vraiment rentrer en ligne de compte. Ouais.
Mais il a un bon bouche à oreille déjà. Aux États-Unis, moi je trouve que la promo ils sont allés à mort et puis ouais. Sur plein de trucs différents et des trucs intéressants. Hein. Par exemple, bon, c'est très putassier, mais le truc sur les nanas amputées qui donnent des membres et tout, je trouve que c'était plutôt malin et tout. Et puis ils ont pas ménagé leur peine. Enfin, je crois que John Lando et Robert Rodriguez sont venus deux ou trois fois à Paris. Ouais. Ils ont envoyé des gens en Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc ils ont pas ménagé leurs efforts. Le film est encore une fois son exploitation n'est pas terminé. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les trucs un peu pro, il y a des analyses, mais longues comme le bras. Et c'est bien là où tu vois qu'il y a un gros problème en ce moment à Hollywood. Hein. Sur les mecs qui te disent, bon alors, ça n'a pas marché parce que c'est normal, c'est pas une franchise. Alors essayons de voir comment on peut faire maintenant fonctionner un film qui n'est pas une franchise. C'est-à-dire que les mecs sont en train d'essayer de réapprendre leur métier de base, quoi. Quelque part, c'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude, en fait, ils travaillent tellement sur des trucs qui sont déjà vendus et acquis d'avance. Que tu te rends bien compte que là, il y a un vrai enjeu en fait, qui est en train de se poser à Hollywood en ce moment.
Okay. Surtout, j'ai lu aussi quelques analyses, c'était assez intéressant, et c'est en lien avec ce qu'on vient de dire avant sur la fusion Disney-Fox, c'est qu'ils disaient, voilà, ce film-là, Alita, va perdre de l'argent, le Joe Cornish est annoncé comme qui va perdre de l'argent aussi, et ils disent et c'est pour ça aussi que d'une certaine façon ça arrange bien Disney de ne pas les mettre dans dans les comptes, et ça montre, ce qu'ils craignent, c'est de dire ça va donner l'exemple à Disney de ce qu'il ne faut plus faire, de ce qu'il ne faut pas tenter, en fait. Et donc, il y a encore cette idée de Disney va empêcher une forme de création que, mine de rien, Alita ou Corniche pouvaient représenter, et que ça serait l'exemple pur par les chiffres de dire, vous voyez, il ne faut pas tenter ce genre de choses, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment cette analyse-là qui est en train de se faire et qui n'est pas du tout, encore une fois, rassurante dans cette fusion Disney-Fox.
On nous demande ce qu'on pense des Sparkshot, les courts-métrages expérimentaux de Pixar mis en ligne sur YouTube. Est-ce que quelqu'un les a regardés ?
Non, je ne
les avais pas vus encore. Eh bien, on les regardera.
Un petit truc aussi sur Alita, c'est qu'on a encore vu aussi ces papiers avant qui t'annoncent en fanfare que le film va perdre 500 milliards de dollars. Et que ça va couler tout le monde occidental, tout ça et tout quoi. Et ça, moi, je trouve ça hallucinant que tous les médias. Et là, pour le coup, les Français, ils ont aussi leur grosse part de responsabilité. Ils adorent en fait faire les gorges chaudes en annonçant les échecs à l'avance. Je pense que ça fait un mal monumental, que ça ajoute un bad buzz et que au moment où les gens hésitent énormément à aller en salle parce que ça coûte un bras d'aller en salle, encore plus quand tu y vas en famille ou avec ton petit, etc. Je trouve ça honteux. Enfin, je trouve qu'il est là,
mais ça c'est piloté.
Le confrère devrait se poser des questions en fait sur là-dessus.
C'est assez souvent piloté.
Chanter ton truc.
Pas du tout, je commence à m'habituer.
Vas-y,
non, je disais juste, c'est piloté, c'est piloté. Ce genre de truc, on le sait, hein, sur plein de.
Ah, voilà, le complot, voilà.
Non, non, mais c'est pas une question.
On est là.
L'œil, quoi.
Et Anaconda, dans tout ça, Stéphane.
Bah, il avait fait un succès à l'époque.
Un succès.
Pourtant, il n'y a jamais eu d'Anaconda Universe.
Non, c'est vrai. L'Anaconverse. On l'attend encore. Merci, public. Merci,
Pérez.
Beaucoup de questions pour Julien Dupuis, dis donc. Les gens sont fans de toi, Julien.
Ils sont fascinés,
essentiellement. On nous demande s'il y a d'autres séances de dédicaces qui sont prévues pour ton livre.
Oui.
Il y a des gens qui te demandent en Normandie.
Non, pas en Normandie, mais j'ai en...
Tu pourrais quand même aller en Normandie.
Tu pourrais quand même aller en Normandie, faire un effort. Bon, tu vas en Bretagne, c'est mieux, mais tu peux quand même aller en Normandie. Voilà, les gens nous réclament ta présence. On nous parle aussi de ton implication sur la série française Les Chamois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne sais pas. C'est mon double maléfique, probablement.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous avez... Les gens inventent des choses.
C'est une série de montagnes.
Je ne sais pas.
Rulio.
C'est Rulio Dupuy. Nous sommes légion, les amis.
Rulio Dupuy. C'est ça, c'est ça. Et tu as une question qui s'adresse quand même à tous, mais qui t'est posée à toi, Julien, parce que tu es le spécialiste officiel de Robert Zemeckis. On nous demande ce qu'on pense de l'adaptation de The Witches avec Hathaway et Octavia Spencer. Est-ce que c'est sa dernière chance à Hollywood?
Non, mais là, il fait son film avec The Rock. C'est ça. Ça, c'est... C'est un beau projet parce que je pense que ça peut le faire revenir sur le devant de la scène. Oui. Ça peut être The Rock, il peut avoir enfin, c'est quand même une vraie star aujourd'hui, n'a quand même pas des masses. Et puis je pense qu'il peut faire un truc super sans se trahir, quoi. Donc j'espère que ça va bien. Mais le projet des sorcières de Roald Dahl, c'est un super projet. Ouais, c'est un super. Et puis je trouve que ça lui va bien en plus, quoi, à Zemeckis pour plein de raisons. Donc non, c'est pas voilà, c'est dommage que Marwan ait fait un pic pareil, que ce qu'il soit pas aussi peu aux Oscars et tout, mais il reviendra, Bob.
Évidemment. Personne ne peut dessouder Bob. Laetitia nous parle de Spielberg qui doit s'attaquer pour son prochain film au remake de West Side Story qui sera sa première incursion dans le genre comédie musicale. Et qu'est-ce qu'on en pense?
Faut demander à Kassovitz ce qu'il en pense déjà.
Kassovitz, il déteste ça.
Non, il a fait un tweet en disant que c'était la première fois qu'il n'attendait pas un projet de Spielberg parce que ça puait, quoi. Enfin, que le casting n'était pas assez sexy.
Il est pas trop,
et que...
trop occupé par les gilets jaunes en ce moment, Kassovitz.
Ouais, alors.
Tout est sur Spielberg. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. On en avait parlé à propos du western. Je trouve intéressant que les grands cinéastes se penchent sur tous les genres, et la comédie musicale en fait carrément partie. Et voilà, après quand Scorsese par exemple s'y est essayé, c'est pas forcément ses plus grands films, mais je trouve ça quand même intéressant. Donc
c'est du pur cinéma.
Ouais.
Et puis moi je reste curieuse, hein. De toute façon, ça m'intéresse de voir Spielberg avoir son incursion sur ce genre-là, justement. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut...
C'est un grand film, ça, cette story, mais c'est avant tout une grande composition. Oui. Donc, comme toutes les grandes compositions, tu peux la réadapter. C'est comme une grande pièce de théâtre, etc.
Oui, voilà.
Exactement. Ouais.
Ouais, j'aurais préféré voir Michael Bay là-dessus, c'est son film préféré. C'est vrai, en plus, il l'a dit. Hein. Il a dit que c'était son film préféré.
West Side Story, mais avec des Transformers.
Bah, ça peut être sympa.
Bah, tu vois, quand ils font des vrilles et tout, c'est ça.
Spielberg va quitter le projet au dernier moment.
Il va refiler le bébé à Michael, mais ce serait tellement bien. Roxane nous demande notre avis sur la nouvelle série anthologique de David Fincher et Tim Miller.
Mais c'est super, c'est trop cool. Mais déjà, j'aime beaucoup, moi, Tim Miller. Je trouve que c'est un mec vraiment intéressant. C'est le fondateur de Blur Studio, en fait. Et c'est celui qui avait réalisé le premier Deadpool. Mais bon, il était un peu contraint par Ryan Reynolds, tout ça. Mais c'est un mec vraiment intéressant. C'est lui qui fait les suites de Terminator. Donc, je suis très curieux de voir ça. C'est un ami proche aussi de James Cameron. Et au sein de son studio de Blur, sur l'ancêtre de Capture, Game Parallax, on en avait parlé
plusieurs
fois. Tu
peux toujours trouver l'interview.
Ouais,
interviews,
ouais. Et ils font... Blur fait des publicités, en fait, pour les jeux vidéo. Et il y en a certaines qui sont vraiment hyper réussies.
Il y a des cinématiques.
Des cinématiques où tu te dis, putain, mais... En fait, Star Wars, ça peut être cool encore aujourd'hui, quoi, par exemple. Quoi. Mais c'est vrai, c'était super. Des trucs avec Batman, vachement bien et tout. Ouais. Mais avec d'autres univers. Et je pense que Tim Miller, il est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de cette anthologie, moi, j'ai tout de suite pensé à Metal Hurlant. Et ils étaient tous les deux attachés à une réadaptation, en fait, de Metal Hurlant à une époque. Donc, je pense que ce truc-là découle un peu de ce projet-là sans qu'ils aient acheté les droits de Metal Hurlant.
Très bien. Voilà. Les lumières sont en train de nous lâcher dans le studio. On va se dépêcher de conclure avant que tout s'éteigne. C'est un signe, je pense. Hervé nous demande si on a des attentes sur les prochains films de Ang Lee et Joe Carnahan, Jim Miniman et Boss Level.
Bah, Ang Lee, la grosse attente, c'est qu'il tourne encore une fois en 120 images secondes et tout ça. Mais le problème, c'est que ça va être sur Netflix, quoi. Donc, voilà.
Ça va être sur Netflix, putain.
Bah, c'est une prod Netflix. Enfin, c'est Netflix qui va le diffuser. Et c'est ça. Le problème, en fait, c'est-à-dire que ce qui est assez fou, moi j'ai beaucoup aimé Billy Lynn, je n'ai jamais vu Billy Lynn exactement qu'il fallait le voir, en fait, c'est-à-dire, on n'a plus de lumière.
Il y a les lumières qui s'éteignent vraiment pour le coup.
J'ai acheté le Blu-ray 4K en 60 images secondes, je pense que je vais me le faire, enfin, c'est donc quand même moitié de la fréquence prévue. Et voilà, et là je pense que sur Netflix avec ton streaming pourri de 2,4 gigas par, enfin ça va être pas possible quoi. À mon avis, s'il pousse les potards, s'il fait exactement la même chose qu'avec Big Lean, il pousse les potards et qu'en fait t'es obligé de downgrader le film totalement, bah je pense que le film il va être très très difficile à regarder. Mais ouais, moi j'ai une grosse attente là-dessus. C'est un vieux script, hein. C'est un script en fait qui était prévu depuis des années à Hollywood. Et c'est Will Smith qui, en gros, c'est plus ou moins, si j'ai bien compris. Comme Looper en fait, c'est-à-dire t'as Will Smith qui va jouer un vieil assassin qui revient dans le passé, j'ai bien compris, pour tuer son...
Il me semble que c'est...
Voilà, enfin c'est un truc comme ça, donc c'est un peu comme Looper avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, sauf que là c'est lui qui joue le même rôle en fait dans les deux cas, si je suis bien informé. Donc bon, ça à la limite c'est un concept très 90s, hein, on va dire, de film de SF, pourquoi pas, mais c'est surtout le parce que lui il a une vraie logique en fait d'essayer de pousser le langage du numérique entre guillemets, c'est-à-dire que trouver la véritable esthétique du numérique. Pourquoi est-ce que tout le monde essaye de ramener le numérique au cinéma d'origine en fait, c'est-à-dire à vraiment faire ressembler ça à de la pellicule, etc., etc., sans forcément y arriver puisqu'on n'a pas le même niveau de définition et ce genre de choses. Bah lui en fait il veut vraiment aller dans le sens inverse. C'est ça qui est très très intéressant chez lui. J'ai envie de voir jusqu'où il va aller. Et puis comme c'est quand même un esthète, ça peut donner des choses assez incroyables, quoi.
Moi, ça m'intéresse beaucoup pour les mêmes raisons que Stéphane, parce que j'ai adoré ces deux précédents films, mais aussi pour Will Smith qui, je trouve, a fait pas mal de mauvais choix depuis qu'il est devenu YouTuber, qui fait un petit peu n'importe quoi. Ouais,
Aladdin.
On a vu la photo d'Aladdin.
On a vu Bright.
Ça fait pas forcément rêver.
Sur Netflix, c'était pas terrible.
Bright, voilà. Bon. After Earth, c'était pas extraordinaire non plus. On peut l'avouer.
Du mal d'un film de Shyamalan. Il est fou.
Non, mais en revanche, moi, c'est un acteur que je trouve intéressant et qui, quand il fait les bons choix, quand ça a pu lui arriver, il peut faire des trucs pas mal. Et j'ai vu récemment une vidéo où il explique qu'il a refusé Matrix. Oui. Et je vous conseille d'aller chercher ça sur internet.
C'est connu comme anecdote.
La manière dont il le raconte est assez marrante.
Tout à fait. Une dernière question. Tiens, on a eu plusieurs questions sur L'Empereur de Paris et le fait que ça n'ait pas très bien marché. On nous demande notamment si ça peut potentiellement menacer l'avenir du cinéma de genre grand spectacle en France, qui tentait un peu de relancer. Une sensation, un avis là-dessus? Non,
bah forcément, ça fait pas de bien, quoi.
Oui,
en tout cas,
oui.
On va voir avec Le Chant du Loup aussi, là, quel score va avoir le film.
Une émission très prochainement.
Et il y a eu
sur Le Chant du Loup.
Il y a eu Dans la brume aussi l'année dernière, qui n'avait pas très bien fonctionné. C'est dommage parce que quoi qu'on pense de tous ces films, ça reste quand même des tentatives. Moi qui ai grandi dans les années 80, j'aurais rêvé que le cinéma français fasse des trucs comme ça.
Oui.
Quoi, au moins il y a des vrais.
Les Ripoux, c'était bien les Ripoux.
Après il y a ce projet de Guillaume Le Mans là.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le projet de Guillaume Le Mans.
Qui est vraiment intéressant, quoi. Mais c'est un peu hors sujet par rapport à la question, parce que ce seront des, si j'ai bien tout compris, des plus petits budgets, quoi.
Oui. Donc, après L'Empereur de Paris, ça s'inscrit quand même dans une tradition de cinéma français avec beaucoup de costumes et de décors qui a un savoir-faire hyper ancré et qui se transmet et qui continue à mobiliser pas mal de gens dans la profession. Donc j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire qu'on continue à faire des films comme ça, si ce n'est des téléfilms pourris par...
T'en as sporadiquement qui reviennent depuis le début des années 2000, on va dire, c'est vrai. Mais t'en avais pas avant. Des films en costume d'action comme ça et tout. T'avais des trucs de temps en temps, t'avais Le Bossu ou La Fille de D'Artagnan.
Oui, après t'avais Les Capes d'Épée un petit peu.
C'est vrai qu'après t'as les films en costume, pas d'action, quoi. Comme il y aura d'ailleurs le prochain film de Polanski.
Là, c'est pas tout à fait pareil.
Dreyfus.
Là, après, quand même, on sent qu'en France ils essayent. Je sais pas ce que ça va donner, etc. Mais il y a du moins une tentative d'envie. Donc le projet de Guillaume Le Mans, déjà, de créer cette collection de films de genre. Mais il y a aussi le CNC qui a maintenant son propre guichet film de genre, et puis il y a plusieurs tentatives qui sont autour du cinéma de genre, donc après ça dépend, ça sera pas des budgets forcément démentiels, mais pourquoi pas en fait. Donc c'est à dire que c'est en mouvement dans le cinéma de genre va pas disparaître à cause de ça, en tout cas.
Mais L'Empereur de Paris aurait pas été à ce guichet.
Je sais pas en fait, mais c'est à dire que pour l'instant, du moins, le cinéma de genre, on lui donne... Faudra voir, c'est lancé depuis cette année.
Oui.
Donc il faudra voir un petit peu le résultat dans un an, deux ans, ce que ça va donner. Voilà,
ouais. Il faut savoir aussi qu'en général, alors je ne sais pas si dans le cas précis de L'Empereur de Paris, mais ce sont des films qui sont remboursés avec les ventes à l'international.
Oui. Souvent, souvent.
Et, c'était une des questions qu'on nous posait justement. Voilà, si ça n'aidait pas aussi à renflouer un peu.
Voilà, et du coup, parce que c'est des films qui s'exportent très très bien, toutes ces grosses prods et tout. Et du coup, de fait, ça a une logique industrielle. Donc, s'il y a une logique, voilà.
Oui. Le genre français, ça plaît à l'étranger. Hein, donc,
ça peut continuer à générer des films. On a eu quand même plusieurs questions. Plusieurs personnes nous ont demandé si on ferait un spécial Nos Ciné sur Ringo Lam. Malheureusement, non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. On aurait pu, mais ce n'est pas prévu. Et on nous demande un mot sur la mort de Bruno Gantz. C'est vrai qu'on n'a pas d'habitude, on profite un peu du club pour saluer les gens qui nous quittent, un peu comme dans les cérémonies.
Ou pour dire du mal de Michel
Legrand. Pour dire du mal de Michel Legrand, j'étais sûr que tu allais saisir cette opportunité.
Ah, je voulais juste en placer une pour Michel qui a honteusement sur cette
j'en
antenne.
J'en place une pour mon gars Michel.
Tranquillement. J'aime beaucoup tous les Michel et celui-là en particulier.
Ça m'étonne pas de toi. Non, Bruno Gantz, vous en foutez par contre.
Mais non, pas du
Bruno.
Tout. Et je trouve ça un peu amusant, d'une certaine façon, que l'un de ses derniers rôles, c'était dans le film de Lars von Trier où il jouait Verge, qui était une sorte de forme de la mort. Et c'est plutôt un sympathique rôle de départ, je trouve.
Malheureusement pour lui, il va rester surtout dans l'histoire pour être un même vivant, c'est-à-dire que le même 99999.
Oui, mais au moins il restera toujours vivant avec nous.
C'est ça, il sera un peu avec nous tout le temps. On va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce Nos Ciné Club. Un gros merci à Solène et Seb à la technique. Prochain Nos Ciné Club, ce sera dans un mois à peu près. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct pour toutes les questions. On vous dit à très vite.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Binge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.